Radio Foot International. Annie Gasnier.
Bonjour et ravi de vous retrouver dans Radio Foot International dans cette émission unique aujourd'hui. Il n'y a pas de match de Ligue des Champions et nous allons revenir immédiatement sur les deux soirées que nous avons passées avec les défaites des clubs allemands sur leur pelouse à Dortmund comme à Munich où leurs adversaires monégasques et madrilènes ont fait la loi, ils se sont imposés. Pourquoi les clubs d'Allemagne ont-ils du mal à se hisser en finale? Pas un seul qualifié lors des trois dernières finales de Ligue des Champions depuis la fameuse confrontation 100% allemande de 2013 entre le Bayern vainqueur et le Borussia vaincu. Nous essaierons de trouver une réponse sportive ou pas, bien sûr, au vu des tristes événements de la semaine. Les affiches des demi-finales sont-elles déjà prévisibles? Ou bien les renards de Leicester inattendus déjà à ce stade de la compétition créeraient-ils une autre surprise? Nous évoquerons les équipes qui ont le plus impressionné et les joueurs de ces deux soirées qui vous ont épaté. Cristiano Ronaldo, CR7, doit bien être sur cette liste. Lui qui, par son doublé, est le premier à inscrire 100 buts en compétition européenne. Le nouveau sélectionneur des Fenech est espagnol, il s'appelle Lucas Alcaraz, il a 50 ans et succède à Georges Likens, le Belge. Est-il enfin l'homme de la situation, une situation où un nouveau président prend ses marques à la fédération algérienne? Là aussi, nous essaierons d'apporter une réponse, avec l'aide notamment de Marc Libra. Bonjour Marc.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Il y a aussi Naïm Moniol à ses côtés, bonjour Naïm.
Salut Annie, salut à tous.
Et puis nous avons Eric Chorin de la rédaction. Bonjour Eric, toujours fidèle au poste, Radio. Foot,
allez, trois jours de suite. Bonjour à
bon Non, allez.
Non, ça va.
Radio Foot, c'est parti. La soirée de Ligue des Champions n'a pas réussi aux clubs allemands. Le Borussia et le Bayern jouaient pourtant à domicile, mais les deux équipes ont perdu et hypothéqué leur chance de qualification en demi-finale. Les jaunes et noirs de Dortmund ont donc été battus par Monaco, 3-2, alors que les Merengues ont marqué 2 et les Bavarois un seul. Que dit-on de ces deux défaites en Allemagne? Peut-on différencier d'ailleurs ces deux défaites vu le contexte de la semaine? On va poser la question à notre confrère du magazine sportif Kicker, Hardy Hasselbroek. Bonjour Hardy.
Bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être en direct dans Radio Foot International. Et donc cette question, Hardy, que dit-on du côté de l'Allemagne? Est-ce que ces deux défaites ont surpris et créent finalement un impact?
Il faut dire que la défaite des Bayern, c'était une surprise à mon avis. Tandis que l'autre match, c'était pas un vrai match à mon avis à cause de la situation qu'il y avait mardi soir à Dortmund.
Mais dans l'ensemble, les clubs allemands, pensiez-vous, alors on va essayer de se mettre avant ce mardi soir, mais est-ce que les clubs allemands paraissaient favoris de la compétition, en tout cas favoris des quarts de finale?
Avant, oui, mais maintenant il faut dire que le Bayern a trouvé une équipe très forte du Real. On a vu que le Bayern peut pas jouer sans Lewandowski, ça c'était sûr avant. Et en plus, il faut dire aussi que le Bayern a une équipe qui a beaucoup vieilli à mon avis, avec des joueurs de d'expérience, avec Robben et Ribéry. Et à mon avis, ils sont plus âgés. Et quand on voit aussi Xabi Alonso, c'est déjà trop dans une équipe de vieux joueurs.
Oui. Que dit-on dans la presse allemande, justement, aujourd'hui, de cela, Hardy?
Pardon, j'ai pas...
Que dit-on de ces deux défaites dans la presse allemande, aujourd'hui?
Bon, les deux défaites sont une surprise, ça c'est sûr, parce que même à Dortmund, on a bien attendu que Dortmund pourrait gagner contre Monaco, surtout chez eux. Mais les circonstances étaient tellement mauvaises que l'équipe n'était pas à son niveau. Tandis que le Bayern a fait un bon premier mi-temps. Après, ils ont baissé le bras et heureusement, il y avait le gardien Neuer qui a sauvé l'équipe. parce que normalement le Real doit gagner 5-1 là-bas à Munich.
Oui. Hardy, justement, le cas du Borussia, parlons-en, parce que la défaite peut peut-être s'expliquer aussi par des raisons extra-sportives, et on l'a entendu, on va le réécouter hier soir, on l'avait cité dans Radio Foot, eh bien, l'entraîneur a avoué qu'il aurait préféré ne pas jouer ce match. Écoutons Thomas Tuchel.
On ne nous a pas consultés du tout. Nous avons été informés par SMS que l'UEFA avait pris cette décision depuis la Suisse et nous, on a vraiment trouvé ça nul. À peine quelques minutes après les explosions, il ne s'agissait déjà plus que de savoir si le match était maintenu. Nous avons eu l'impression que c'était comme si on nous avait simplement jeté une canette de bière. 30 minutes plus tard, la décision était prise. Demain, 18h45. Sans plus de consultation, alors que nous ne connaissions même pas la gravité des blessures de Marc Bartra, ni les tenants et les aboutissants de cette attaque. Nous nous sommes sentis profondément laissés pour compte. Il faut l'admettre.
Hardy, Thomas Tuchel dit cela, il y a des joueurs aussi de l'effectif qui en zone mixte après le match ont tenu les mêmes propos, notamment Nouri Sahin. N'aurait-il pas dû parler avant en fait?
Bien sûr à mon avis, mais ils n'avaient pas de la chance de le faire avant parce que il y avait le décret de la part de l'UEFA. Il voulait que ce match joue mercredi soir à tout prix, je veux dire, et le club aussi voulait le match, mais c'est sûr que pour un entraîneur, pour une groupe de joueurs, c'est difficile à gérer ce qui s'est passé l'avant-soirée, c'est normal à mon avis, parce que moi je me rappelle un truc pareil, c'était l'équipe de Togo qui est venue en Angola à la CAF.
Pendant la Cannes, oui.
À la Cannes, oui, excusez-moi. Et à mon avis, c'est presque impossible de jouer le lendemain sur les conditions qu'il y avait. C'était quand même un quart de finale de la Ligue des Champions. C'est impossible à mon avis.
C'est le sentiment qu'on avait, Hardy, en Allemagne, d'une manière générale, avant cette rencontre, qu'elle n'aurait pas dû être reportée simplement de 24 heures?
Pas tellement, parce que, à mon avis, on était choqués et Dortmund, l'équipe, était bloquée hier soir, surtout la première mi-temps, et à mon avis, c'est tout à fait humain, parce que ce qu'ils ont vécu mardi soir, on peut pas jouer comme s'il n'y avait pas rien avant.
Marc Libra, vous qui avez donc été joueur professionnel, comment vous voyez cette décision? C'est sûr que chacun réagit un peu différemment, mais quand même là, les joueurs étaient tous dans ce bus, ont tous entendu ce bruit et étaient donc encore dans l'après, quelques heures, moins de 24 heures après, ils ont disputé le match.
Oui, il n'y a aucune équité sportive, parce que pour moi, déjà le mardi soir, je me demande comment il est possible de faire évoluer cette équipe. Les joueurs ont vécu un traumatisme très important. Moi, ça me fait rire, parce qu'encore une fois, l'UEFA a géré tranquillement. Ils ont dit, ils les ont mis au pied du mur. Faut préciser aussi que le coach allemand le dit à 18h avant le match, c'est-à-dire qu'il le dit pas, parce que certains ont dit, ah, oh, mais c'est facile de parler. Non, avant le match, déjà, il explique. Ils sont sûrement choqués. Il y a un joueur qui a été blessé et parti à l'hôpital. Un autre a été vraiment secoué. Il a pas pu jouer hier soir. Hier soir, ils sont restés à 6 au lieu d'être à 7 sur le banc parce qu'ils ont voulu rester ensemble. Je pense qu'ils se sont pas rendus forcément compte de ce qui se passait. Ils ont été choqués mais c'est pas logique. Si c'est le Real qui vit ça, si c'est le Barça, si c'est le PSG, si c'est rien que le Bayern, mais je peux vous assurer, je pense, ça joue pas le match. Alors on nous a dit, ah oui, mais vous comprenez, Monaco n'a pas, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Là, on a failli tuer des mecs, quoi. Alors on dit, alors non, mais c'est pas grave, le bus est fissuré derrière, on apprend qu'il y a une vis qui est passée à travers un appui-tête, et on nous dit, ah, mais attendez, mais vous pouvez jouer, mais c'est pas grave. Ah, c'est catastrophique. C'est catastrophique à ce niveau-là d'entendre ça. Et l'UEFA a géré tranquillement, sans prendre en considération cette équipe d'hommes. Ils les ont pris pour des tout petits. Donc ils ont mis au pied du mur, vous allez jouer. Et c'est peut-être, mais je pense que c'est facile après de dire comme nous à cette position, de dire oui, ils doivent se rebeller, mais ils sont tellement choqués. Je pense qu'ils sont choqués que on va jouer, ben ok.
Le prédécesseur de Thomas Tuchel, le charismatique hein, Jürgen Klopp, il a suivi le match de Liverpool où il entraîne les Reds depuis quelque temps et il a constaté eh bien que jouer dans ces conditions ne pouvait qu'être difficile, mais il ne condamne pas tout à fait la position de l'UEFA.
J'ai regardé le match hier soir. Je peux comprendre les deux points de vue. C'est vrai que le reporter aurait été très compliqué. Trouver une autre date dans ce calendrier déjà si serré, pas simple. Mais d'un autre côté, comment ne pas soutenir les joueurs qui voulaient trouver une autre solution? Je suis sûr que les personnes qui ont pris cette décision n'auraient pas décidé la même chose si elles avaient été dans le bus. Alors hier soir, j'étais vraiment fier de mon équipe de Dortmund. Ils ont essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes. J'ai vu les visages de mes anciens joueurs et j'ai vu le choc dans leurs yeux. Non, c'était vraiment dur à vivre ce match. Je l'ai même oublié dès le coup de sifflet final. J'ai juste pensé aux joueurs.
Hardy, une dernière question. Est-ce que vous pensez que si ça n'avait pas été Dortmund et Monaco, mais par exemple le Real et Bayern qui avaient été impactés par ce fait, le match n'aurait peut-être pas été joué?
C'est possible, mais vous savez que l'UEFA, ils ont des dates pour jouer. Ils ont des contrats avec les télévisions.
L'argent.
Et je crois que c'était pareil avec les grands clubs aussi, comme le Bayern, le Real ou Barça.
Je suis pas sûr. Ça.
Croyez-vous qu'il y aura un club allemand en demi-finale cette année?
Non. C'est je clair. Ne crois plus.
Ben oui, c'est ce qu'on a cru comprendre ici aussi. Bah,
les chiffres sont assez clairs, hein. 4% de chance de qualification pour le Borussia, 7% pour le Bayern, ça fait pas lourd hein, quand même. Mmh. Même si on a vu que le Paris Saint-Germain était capable de déjouer toutes les statistiques imaginables. Donc,
non, c'est vrai que le Bayern, j'y crois pas trop, mais Dortmund, j'y crois.
On vous rappellera en tout cas pour reparler de football allemand avec vous, Hardy. Merci beaucoup d'avoir été en direct d'Allemagne. À très bientôt.
Bonne soirée.
Merci.
À bientôt.
Je voulais revenir sur les propos que tenait Marc Libra par rapport à la situation, au vécu des joueurs, de l'entraîneur. Je crois qu'Habib Bey disait un petit peu la même chose hier aussi. Et nous, on a vécu avec Bruno Constant. Bonsoir Bruno, qui nous a rejoint dans le studio. Le match Angleterre-France, donc 4 jours après celui et le France-Allemagne. Et on se souvient que Hugo Lloris l'a dit en conférence de presse avant le match. Didier Deschamps avait été un petit peu plus mesuré. Le président Le Graët un peu comme le président du Borussia avait déjà dit de toute façon que le match aurait lieu, ce match face à l'équipe d'Angleterre.
C'est ça, en fait, on a un peu la mémoire un peu courte. Oui. C'était il y a quoi, il y a un an et demi, et les joueurs l'avaient confié. Alors beaucoup.
Gary Sagnan en zone mixte après le match était effondré.
Beaucoup disaient oui. Pourquoi on a joué ce match
et c'était plus que quelques heures. En plus, c'était pratiquement quatre jours après.
Bon, ça, sachant qu'eux avaient été enfermés dans le stade, ils avaient appris les événements. C'était encore un peu différent. Là, les joueurs de Dortmund étaient directement attaqués. C'est assez scandaleux. Si ça avait été, ne serait-ce que, tu parlais de Marc, si ça avait été le Bayern, le Real, etc. Mais
et
si ça avait été Monaco.
Et un joueur important.
Et si ça avait été Monaco, est-ce que les médias français aujourd'hui, nous médias français, on traiterait de la même façon le match comme on l'a traité aujourd'hui?
Exactement.
De manière sportive.
Exactement.
On aurait titré tous, fallait-il jouer ce match? Parce que c'était impossible à jouer, impossible.
Donc, c'est compliqué effectivement de juger Naïm, la prestation des joueurs. Parce que finalement, ce qu'on peut dire, c'est que Dortmund a essayé de sauver les meubles et ce but contre son camp de Bentner finalement dit un peu tout.
La première mi-temps dans son ensemble, hein, le but de Bentner, le comportement, l'état d'esprit, on a vu pendant 45 minutes, les joueurs n'y étaient pas, même si ça s'est pas franchement senti dans le stade, parce que les supporters du Borussia, pour le coup, ont donné le change, ils ont vraiment fait un boulot remarquable.
Et ceux de Monaco aussi, d'ailleurs.
Également, hein, ouais, mais sur 45 solidaire. Minutes, on a vu que, clairement, il y avait une équipe qui jouait au foot et l'autre qui était là un peu en figurante. Bon, voilà, moi, ce match, oui, restera impacté par ça. La performance de Dortmund aussi, même si la deuxième mi-temps est bien meilleure et le score reste ouvert.
Mais c'est presque étonnant, cette deuxième mi-temps, cette réaction.
Je pense que Tuchel a dû leur faire une séance de psy express à la mi-temps. Il leur a retourné le cerveau et puis les joueurs ont adhéré. Mais c'est vrai que sur la première mi-temps, on ne peut pas dissocier et la mauvaise prestation du Borussia Dortmund et ce qui s'est passé la veille. C'est évidemment lié.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que Jürgen Klopp, hein, qu'on entendait tout à l'heure, disait « J'étais vraiment fier de Dortmund. Ils ont essayé de donner le change. »
Bien sûr,
et
ils ont fait une deuxième mi-temps remarquable. Hein.
Mais malheureusement, Marc, peut-être qu'aussi, on parle des impératifs d'argent, mais c'est vrai que dans des calendriers très serrés où tout est organisé, finalement, comme beaucoup de choses dans la société aujourd'hui, l'UEFA semblait peut-être ne pas avoir le choix.
Ouais, enfin, c'est encore une fois, c'est l'argent qui est roi. Il faut quoi qu'il y ait trois morts.
Non, mais c'est ça. Je suis d'accord.
C'est que
c'est une attaque à la bombe, une justification exceptionnelle. On ne change rien.
C'est une attaque à la bombe, justification. Donc Marc Bartra, il est blessé pour rien, quoi. C'est pas grave. Attendez, il est parti à l'hôpital, opéré en urgence. Pas grave. Enfin voilà, mais je reste persuadé que si c'est le Real et Cristiano Ronaldo qui est touché ou Barça, Messi, croyez-moi.
Il y aurait d'autres pressions.
c'est pas pareil. Je pense qu'on vit autre chose. Et le match, il n'aurait pas eu lieu. Et croyez-moi, dans ces cas-là, il faut quand même trouver des solutions pour aider les clubs. Alors Monaco a fait la demande pour jouer finalement à 17h, il joue à 21h. Mais là, on doit pouvoir trouver un créneau. Je suis désolé, mais il faut le trouver, le créneau. Et là, on nous parle, mais vont tomber les droits télé, les diffuseurs, les si. Alors si c'est plus intéressant de mettre une publicité de la téléphonie, d'un hôtel, de...
Ce qui est incroyable, c'est que par exemple en Angleterre, avec la première ligue qui est quand même ultra puissante, les clubs arrivent à jouer des matchs à 48 heures d'intervalle. Pourquoi c'est pas possible dans les autres championnats? Humainement, effectivement, c'est critiquable, mais c'est possible. Pourquoi on le fait pas dans des situations exceptionnelles comme ça, tout simplement?
Alors, parlons plus trop de ce match, parce que finalement, c'est vrai que tout est faussé, mais revenons sur les Bavarois, sur ces ogres quand même qui avaient enregistré 16 victoires consécutives en Ligue des Champions à domicile, et qui là, alors, il y avait des absents, évidemment, Robert Lewandowski.
C'était un record dans la compétition, le 16 victoires à domicile consécutives, c'est fini.
Et voilà, c'est fini, dominé. Alors, il y a aussi un fait de match important, c'est qu'ils n'étaient qu'à 10, les joueurs du Bayern.
Il y a eu l'expulsion de Ravi Martinez qui a un petit peu permis au Real d'enfoncer le clou et de marquer ce deuxième but. Mais globalement, même en première mi-temps, même en menant 1-0, on n'a jamais vraiment senti un Bayern souverain. Moi, j'ai été très déçu de la prestation des Bavarois. Et la victoire du Real, elle est évidemment logique, parce que je ne pense pas avoir vu entre deux équipes comme ça, le niveau normalement est trop serré pour qu'on assiste à une deuxième mi-temps comme on a assisté. Ça a été véritablement un rouleau compresseur en deuxième période. Et c'est là où moi je trouve incroyable que des joueurs, on me dit oui, mais il manque Lewandowski. Mais excusez-moi, on parle du Bayern Munich, on parle pas de Bochum ou d'Offenheim. C'est-à-dire que quand vous jouez avec Robben, Ribéry, Müller,
Vidal,
Alcantara, que vous faites rentrer Coman, Douglas Costa, la seule chose que vous trouvez à dire que vous perdez, c'est oui, mais il manque Lewandowski. Mais il y a combien de millions là sur le terrain? Ces mecs-là peuvent pas tenir un résultat à domicile. Alors, bravo au Real, parce que ces individualités à cette équipe se sont mises au niveau. Casemiro, Marcelo, Cristiano, qu'on peut critiquer cette saison, mais grand rendez-vous, le mec est là. Par contre, ceux du Bayern, là, si on me dit aujourd'hui qu'une équipe comme le Bayern ne peut pas gagner sans Lewandowski, faut arrêter.
Quand on voit les stats de Lewandowski,
38 buts cette saison,
40 matchs.
Et on se souvient qu'il avait une fois marqué 4 buts au Real Madrid.
Est-ce que tu as entendu les noms des mecs que je t'ai cités il y a 30 secondes?
Non, mais ils n'ont pas de doublure.
Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le joueur. Aujourd'hui, tu lèves Cavani à Paris, c'est plus la même équipe. Je te donne un exemple. Tu lèves Gomis à Marseille. On va prendre des équipes inverses. Tu lèves Lacazette à Lyon. Mais c'est plus la même équipe.
Mais là, tu me parles de deux mecs qui sont quasiment seuls aussi dans leur secteur. Lacazette, il n'y a pas d'autres attaquants de pointe à Lyon. Tu as Gomis, il y en a pas non plus.
Mais justement, Müller n'est pas l'attaquant qui
fait. C'est pas un attaquant de pointe. Mais excuse-moi, quand tu vois les saisons qu'il te fait, les saisons précédentes, les statistiques qu'il a. Quand t'as Ribéry et Robben sur le terrain, t'as Vidal. Moi, je veux bien qu'il n'y ait pas un attaquant de la trempe de Lewandowski, je te l'accorde. Maintenant, quand tu alignes des mecs qui sont tous ou qui ont été dans un passé très proche des top 10 au Ballon d'Or, qui sont internationaux dans leur pays, que tu vois la deuxième mi-temps pourrie qu'ils te font.
Mais t'as tout dit, ils ont été. Et puis le défenseur absent,
Hummels,
qui n'est pas là, ça change tout aussi. Attention, Vidal, s'il met le pénalty, peut-être qu'on parle autrement. Parce que ce pénalty-là.
C'est la première fois qu'il en raté un d'ailleurs.
Même s'il a bien raté. Mais vraiment bien, il n'a pas fait semblant.
Il paraît que ça atterrit presque.
Donc à 2-0 à la mi-temps, c'est peut-être autre chose.
En tout cas, Rummenigge a assuré que Lewandowski serait 100% présent au match retour. Pour Hummels, on ne sait pas encore. On se retrouve juste après la pause.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Deuxième partie de Radio Foot International sur RFI et toujours avec nos invités, avec Marc Livra, Naïm Moniol, avec Bruno Constant et Eric Chorin. Alors restons sur ces matchs de Ligue des Champions passionnants, avec donc ces quatre matchs des quarts de finale, deux victoires à l'extérieur en Allemagne donc, et puis des clubs espagnols qui se distinguent en gagnant, voire en se faisant laminer comme le Barça à Turin. Et puis on a les Foxes, inexpérimentés en compétition européenne, mais qui pourraient encore survivre. Bruno, on en profite puisque c'est votre grande spécialité et que vous les avez vus l'année dernière, Leicester, être sacré champion d'Angleterre, battu hier à Madrid par un seul but. Alors on sait qu'en fait Madrid a peut-être, l'Atlético a peut-être plus dominé que ne le dit le résultat, oui, mais en tout cas Leicester, plus, oui, l'entraîneur Shakespeare dit on est toujours vivant. C'est ce que doit dire un entraîneur d'ailleurs.
Ben c'est ça, si on avait dit avant le match que Leicester partirait avec un seul but de retard avant le match retour, c'est déjà un exploit de se rentrer.
Sauf qu'on en avait parlé hier dans Radio Foot et Carlos Pizarro disait on sait que par rapport à Diego Simeone, l'important pour lui c'est de ne pas en encaisser à domicile. Et ça, ils ont réussi, les
Colchoneros. La différence avec Séville et l'exploit de Leicester face à Séville, c'est que l'Atlético est nettement moins joueur que Séville.
Mm-hmm. C'est ça.
Ouais. Ils vont défendre, ils vont être compacts comme ils l'ont été ce match-là. Il n'y a quasiment pas eu de tir de Leicester hier soir.
Cadré.
Il y a quand même, faut quand même rappeler que le penalty, par exemple, et le penalty est en dehors de la surface.
Complètement.
Voilà. Que l'Atlético Madrid n'a que 3 tirs cadrés sur tout l'ensemble du match, dont le penalty, c'est pas énorme. C'est-à-dire, autant l'Atlético a énormément dominé, mais Leicester n'a pas tant souffert que ça finalement. Ouais. Et ils ont joué leur jeu, donc oui, ils ont été dominés. Mais si on regarde la saison où ils étaient champions, ils ont été dominés quasiment les 3/4 des matchs, avec une possession qui tenait autour de 28-29%. Donc c'est pas nouveau.
Vous les voyez passer ?
Bah, ils sont capables de tout, hein. Ils nous surprennent chaque saison. Donc
mais justement, vous
pas.
Qui les connaissez, il y a un ressort, il y a quelque chose dans leur stade, grâce à un mur bleu, je sais
si
pas.
Ça tenait qu'à eux, oui, sauf que l'Atlético est quand même une équipe qui défend ça, excessivement bien.
Moi, je suis d'accord avec toi.
Et je pense que malgré tout, ça va être très compliqué pour marquer.
Le match qu'on va voir au match retour, l'Atlético est taillé pour ça.
Ouais.
C'est-à-dire faire le bloc, être compact, jouer en contre, ils vont le faire. Et puis il faudra aussi quand même, à un moment donné, que Leicester ait des individualités qui haussent le niveau, parce que le match de Séville à Séville, notamment en deuxième mi-temps, on avait vu quand même des mecs prendre leurs responsabilités, être bons. Vardy, voilà. Hier, Vardy, il a été mauvais. Mahrez
c'est
vraiment une
saison. C'est le problème de leur saison. Ils sont trop irréguliers.
Mais ils sont à un niveau aussi qui n'est pas vraiment de leur. Donc, c'est compliqué de leur demander de s'y
mettre. Ouais, mais moi, je pense que quand tu t'appelles Mahrez, Vardy, que tu viens de tout en bas, que tu te retrouves dans un quart de finale de Ligue des Champions à Calderon, quand bien même tu serais irrégulier, quand bien même tu ferais pas la même saison que les derniers, tu dois montrer autre chose. Parce que ces matchs-là, ces mecs-là, ils les rejoueront jamais. Non, mais on va pas se mentir. Ouais, ils les rejoueront jamais. Vardy et Mahrez, ils les reverront pas en
même
finale
temps,
de Ligue des Champions.
Ils repartent avec
je te le dis.
Retard,
je suis tout à fait d'accord avec toi. 100% d'accord avec ton analyse. Mais je te dis que des mecs comme Vardy et Mahrez, qui ne rejoueront à mon avis jamais de quart de finale de Ligue des Champions, pourraient montrer autre chose.
Marc.
Ouais, mais là, tu parles, il y a un match retour. Donc, c'est la première manche, si tu veux. Oui, ils ont pas été bons. À l'arrivée, voilà, c'est vrai qu'ils se sont fait peut-être un petit peu bousculer, mais à l'arrivée ça tient la route. Il y a qu'un but. Qu'est-ce qui peut se passer là-bas? C'est une équipe qui alors on parle, c'est vrai, Diego Simeone et son équipe souffrent énormément. Elle sait souffrir ensemble. Mais de l'autre côté, Leicester, ce qu'ils ont fait l'année dernière, avec ou sans Kanté, ce sont des véritables chiens sur le terrain. Ils sont capables de s'arracher et d'aller leur mettre un but. Il peut se passer tellement de choses face à Séville. Séville était content. Ah, c'est Leicester. Qu'est-ce que c'est bien. Ah ouais, au retour, ils ont vu ce qui s'est passé. Il peut se passer des choses. Vardy, dans ce contexte-là, où il doit défendre très bas, où il doit s'arracher, où il doit filer des coups, c'est pas le même quand il va être dans son jardin. Et peut-être qu'il peut se passer, il peut y avoir quelque chose. Ils ont le droit de passer à travers. Il y a encore un match retour. C'est
Eric,
pas catastrophique.
Vous avez un petit pourcentage?
Ah non, mais c'est statistiquement, c'est quand même eux les mieux lotis. Parce que le Borussia 4%, Barcelone 6%, Bayern 7%, et eux c'est 40%. Donc on a le droit, ils sont vivants, quoi, quand même. Ou est-ce que les chiffres vraiment parlent si mal?
Ils étaient quand même à 5000 contre 1 pour le titre de la saison passée. Ils ont remporté.
Ah oui, ça c'est bien une réflexion de quelqu'un qui avait fait en Angleterre.
Les paris. Les probabilités pour gagner Leicester. Mais ça va être compliqué. Mais dans ce petit stade du King Power Stadium, c'est quand même très très chaud. Il peut se passer n'importe
vous
quoi.
Vous imaginez
qu'il
y a un bon temps anglais, bien de pluie, un peu de vent, il fait bon, il fait froid.
Un peu de brouillard aussi.
Un peu fog, foggy, everything.
C'est bien l'équipe qui n'a rien à perdre, en tout cas, match retour.
Alors messieurs, en tout cas, des 8 équipes encore en compétition. Alors c'est vrai que c'est compliqué d'avoir une opinion sur ce Dortmund-Monaco, mais il faut continuer comme l'a fait l'UEFA. Quelle est celle qui vous a marqué durant cette phase aller, voire une équipe que peut-être vous voyez déjà finaliste?
Moi, c'est la Juve. C'est la Juve, j'en ai déjà parlé, parce que c'est d'abord l'équipe la plus solide derrière, contrairement aux autres grosses équipes, le Real, le Barça, et puis alors, quelle mainmise sur le jeu. Quelle mainmise sur le jeu. Moi, je les ai. Alors, ça s'est moins vu sur la dernière demi-heure, parce que le Barça a quand même été meilleur qu'à Paris. Mais vraiment, pendant une heure de jeu, on s'est régalé. Moi, j'adore cette équipe, ce que font des garçons comme Dybala, comme Higuain. Voilà, j'ai trouvé très fort.
Abby Bayer était épaté par les défenseurs. Il leur a crié tout son amour, son admiration.
Quand toute l'année.
Et Kelini qui marque en plus.
Des cérémonies qui récompensent le meilleur défenseur du monde, le meilleur défenseur d'Europe, le meilleur défenseur de la Ligue des Champions. C'est toujours Ramos et Piqué, c'est jamais Kelini et Bonucci. Ouais. Je trouve que c'est scandaleux parce que c'est aujourd'hui peut-être les meilleurs défenseurs au monde. Et moi, la Juve, je la vois en finale. Je la voyais favorite face à la Barça. Je la voyais pas gagner 3-0 quand même chez elle. Je la voyais favorite face au Barça. Et clairement, je pense qu'aujourd'hui, à ce rythme-là, ils sont au moins en finale.
Bruno?
C'est la même chose. C'est la Juve. C'est la Juve parce que ça représente l'équipe la plus structurée, la plus complète. Défensivement, offensivement, c'est bien organisé. Ils partent pas à l'abordage, ça joue pas sur d'énormes stars. Il y a Dybala effectivement, mais c'est plus un collectif. Et puis surtout, c'est quand même une équipe qui a perdu Paul Pogba, dont on disait le plus grand bien d'Italie.
Faut s'en rappeler de ça.
Et derrière, ils alignent, ils font un bon recrutement, et ils sont excellents.
Ce qu'on disait du départ. Après, mais on le disait aussi. Vous allez voir quand Tevez va s'en aller. Vous allez voir quand Pirlo va s'en aller. Vous allez voir quand Vidal va s'en aller. Quand Pogba va s'en aller. Mais les mecs, ils sont là. Je vous garantis, eux, ils sont en place. Il y a pas de problème.
Pogba, je pense, c'est pas très grave qu'il ait perdu. C'est un petit tacle.
Marc, quelle est l'équipe qui vous a
Effectivement,
marqué.
C'est la Juve aussi.
Vous aussi. On va pas parler des autres équipes.
Non, mais on les prend pas au sérieux. Ah bah l'Italie, il y a plus rien. Oh, ils font que gagner le championnat. Oh là là. Mais enfin, il faut compter sur eux.
Quand même, ils vont gagner leur sixième titre consécutif. On s'habitue, mais il faut tenir le niveau.
On l'a vécu nous aussi en France. Ah, c'est toujours les mêmes qui gagnent. C'est toujours la Juve. Aujourd'hui, non, mais il y a un gros match ce week-end. Il y a Inter et Milan. Enfin, l'Inter est contre l'AC Milan. C'est un gros match. C'est le sixième contre 7e, est-ce que ça va intéresser quelqu'un? Je pense personne. Personne. Et l'Italie, la Juve joue. La Juve, c'est une machine depuis Conte, il a mis quelque chose en place. Et puis, ça rentre dans le moule et ça continue. On mettait en avant le jeu du Barça de tout petit jusqu'au plus grand. Et bien, ça fait quand même 5-6 ans que c'est une machine qui avance tranquillement et qui progresse. Et on ne parle pas beaucoup d'eux. Ils ne font pas de bruit. Mais faut compter sur eux maintenant.
Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'ils sont considérablement renouvelés au niveau de leur effectif. Même s'il y a les bases arrières qui sont assez stables.
Ils sont excellents, moi, je trouve. À chaque fois, ils perdent des grands joueurs. Ils visent très juste dans le recrutement, dans le remplacement. C'est efficace la saison d'après. C'est très fort quand même.
Eric, la Juventus, vous aussi?
Ah bah oui, vous vous rappelez quand même que c'est mon surnom en plus, oui, donc je vais avoir du mal à me déjuger quand même.
Alors, il y a le Real de Madrid.
Eric, la Juve.
On peut dire un mot sur le Real de Madrid de Zidane. Ouais. On avait pas mal critiqué Zidane sur notamment le côté Baraka, où toutes les planètes s'alignent quand c'est pour lui.
Certains disent qu'elles se sont encore alignées hier.
Oui, mais avant le match, Lewandowski est forfait, Hummel c'est forfait.
Vidal rate son pénalty.
Vidal rate son pénalty. Martinez est expulsé. Il joue à 11 contre 10. Tout va dans leur sens. Mais en même temps, c'était la première fois qu'il y avait un grand match pour Zidane en Coupe d'Europe, parce que la saison passée, à part la finale...
Enfin, un grand adversaire avant la finale, on va dire.
Un grand adversaire, voilà. Et ils avaient joué Wolfsburg en quart de finale, ils avaient joué Manchester City qui n'avait pas d'expérience en demi-finale. Là, c'était un gros morceau, et la maîtrise qu'ils ont affichée sur la pelouse du Bayern, c'est assez impressionnant.
La deuxième mi-temps, elle est énorme.
Nabil, surtout... Naïm, on notait hier, justement, quand on parlait de ce match, peut-être l'affirmation de Zidane en tant que coach, quand il sort Gareth Bale pour le remplacer par finalement un joueur méconnu, pour ne pas dire inconnu, et le bon choix.
Oui, c'est le bon choix. Alors Gareth Bale n'a pas été bon, c'est un garçon qui sort de blessure, donc en plus il a une excuse, mais il a aussi sorti Cristiano Ronaldo cette année, Zidane. Moi, je trouve que dans son coaching, souvent, il est pertinent. Et on dit toujours, on sort pas les stars, on sort pas. Non, il l'a sorti pas mal de fois cette année. Donc oui, c'est une très bonne chose. C'était un peu craqué sur le coaching face à l'Atlético. Il s'est rattrapé
après,
sur ce
match. Après, il y a autre chose, sur Gareth Bale, c'est qu'il y a comme une énorme rumeur. C'est que le Real de Madrid veut se séparer apparemment d'un des deux stars, soit Ronaldo, soit Gareth Bale cet été, pour faire de la place, soit Griezmann, soit Eden Hazard. Et que Gareth Bale a été déjà reproposé en fait au Manchester United en vue de cet été. Il y avait déjà eu des contacts avant qu'il signe au Real de Madrid. Donc il y a aussi un peu de politique. On ne sait pas trop exactement ce qui se passe entre Florentino Pérez qui est en train de renouveler les stars et l'influence que ça peut avoir sur l'équipe. Mais...
Je précise que Gomis va être sur le marché. C'est ma petite passation au Marseille, il ne faut pas oublier. Bon, ben Gomis va être sur le marché. Donc, j'espère que Marseille va garder. Petite parenthèse.
Ce qu'il faut quand même dire sur le Real Madrid, c'est que, je le disais tout à l'heure, ils ont fait des matchs vraiment nuls cette année en Liga face à des adversaires très moyens. vraiment, ils ont lâché des points face à des petites équipes, ils ont arraché des nuls à la dernière minute, on disait Ronaldo, il est pas bon. Marcelo, ceci. Casemiro, cela. Et Rabiot, cela. Sauf que quand t'arrives à un match à ce niveau-là, les mecs, ils sont rendez-vous.
Ils sont là.
Ce qu'on n'a pas vu la veille avec le Barça. Hein.
Bah oui.
Moi, c'est juste au passage parce que le Barça, il y a souvent pas vraiment de réponse tactique, enfin, moins ces dernières années, une rigueur défensive un peu aléatoire. On dit, ouais, il y a du génie devant, sauf qu'on se rend compte que quand il y a plus de génie devant, il y a plus rien dans cette équipe.
Marc, encore un mot?
Ouais, non, mais je pense que la force de Zidane, rappelez-vous, quand il récupère l'équipe, c'est quoi? C'est qu'il remet son équipe à niveau physiquement. Hier soir, on a vu qu'il ne s'arrête pas. Il y a le coup de barre, certaines équipes peuvent l'avoir. Son équipe ne l'a pas. Il travaille. Alors, est-ce qu'il les fait bosser? Alors, certes, tu disais, il y a certains matchs. Ouais, mais peut-être parce que, en janvier, ben, tu refais une grosse préparation physique. Il est passé par l'Italie. Il sait comment ça fonctionne. Il a son préparateur, c'est Pintus, il me semble, qui est à l'époque à Marseille. Voilà, il les fait bosser. Il leur fait mal. Et quand on voit Gareth Bale qui fait beaucoup d'efforts, Ronaldo fait beaucoup d'efforts. Benzema, quand j'ai vu la première image de Benzema, je l'ai pas reconnu. Heureusement qu'il a la barbe. Et j'ai appris, il a perdu 5 kilos. Et les mecs, il les fait bosser. Et pourquoi?
Et les
parce
motive.
Que c'est très simple. Ben, la dernière ligne droite, il faut qu'on soit devant. Et l'année dernière, il fait quoi? Il va coiffer tout le monde parce que ces mecs, ils volent. Ils courent plus que tout le monde, ils sautent plus que tout le monde. Et certains, le Bayern hier soir, oh, ils avançaient plus, il n'y a plus d'essence. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que l'autre leur marche dessus.
Alors, parmi les acteurs marquants de ces rencontres, eh bien, nous, on en a sélectionné quelques-uns. C'est les buteurs, évidemment, parce qu'ils étaient très attendus. Ils étaient au rendez-vous et même à double dose. Écoutez.
Pronto al controcross, si avvicina Dybala, Cuadrado, vuole andare nel dribbling, ecco Dybala, si gira, prova il tiro, rete, rete, Dybala colpisce subito, Dybala mask, Juventus Stadium impazzito, Juve in vantaggio. Wayne in mezzo, arriva anche Dybala, prova a girare subito, rete, un altro gioiello, un altro capolavoro incredibile, Dybala.
Ballon dans les pieds di Bernardo Silva, qui est tout seul, qui a énormément d'espace pour progresser. Il a déjà fait 80 mètres ballon au pied. Peut décaler sur Thomas Lemar. Le centre de Lemar. Le but. L'ouverture du score. Kylian Mbappé là, la réception. Chanceux. Oui. Allez, voilà. Allez. Mbappé qui est venu chipper ce ballon. Kylian Mbappé face à Burki.
Oui,
le 3-1. Il a jailli le jeune homme.
Magnifique.
Il a jailli le jeune surdoué. Kylian Mbappé, le doublé.
Quelle classe.
Allora in mezzo Ronaldo, il pareggio di Cristiano Ronaldo subito all'inizio della seconda tempo sulla cross di Carvajal, eccolo qui
Asensio, vino per Cristiano, gol del Madrid.
Et voilà les buts de la soirée dans toutes les langues. Hein. Radio Foot, on apprend des langues étrangères aussi, en tout cas.
Là aussi, je vote pour la Juve, hein. Pour l'Italie.
Arrêtez, ça vous plaît, ça.
Écoutez les confrères, c'est sympa.
Est-ce que ce sont ces... Quels sont les joueurs qui vous ont bluffé, vous? Alors, on parle souvent des buteurs. Eh bien, Naïm, peut-être que vous avez, je sais pas, envie de parler de Neuer.
Ah oui, Manuel Neuer a été monstrueux. Alors, c'est pas une première, hein, mais c'est vrai.
Le pauvre, il en prend deux. Et...
Oui, mais alors, comme disait tout à l'heure le consultant en Allemagne, regardez les arrêts qu'il fait, portant sur Ronaldo, sur Benzema, il fait déjà une tête en première mi-temps. Oui, Neuer a été monstrueux.
Il y en a un qui est extraordinaire, là. Quand il met juste la main en opposition, la
manchette
ne bouge pas, quoi. C'est impressionnant.
Et moi, s'il y en a un qui m'a beaucoup plu sur ces quarts de finale, c'est Touré de Monaco. Qu'on annonçait quand même vraiment, on a dit attention, il manque Sidi Bé, il manque Mendy, ouais, mais il y a Radji, ouais, mais là, Touré, attention. Et moi, Touré, je l'ai trouvé, alors, on va pas, voilà, le contexte fait que machin, mais je l'ai trouvé très bon, il a apporté le surnom, il a été assez propre dans ses interventions, et vraiment, voilà, mention spéciale pour Touré.
Marc?
Mbappé qui il s'arrête pas. C'est non mais c'est j'ai l'impression que Monaco peut aller
vous justement qui êtes un buteur et qui avez vu qui êtes passé par ce genre de chemin.
Non mais c'est
18 ans.
Il est très impressionnant, on a l'impression que il se passe rien, il va jouer avec ses copains, il s'amuse. Il a expliqué nous hier soir en direct, il a expliqué son but, il part, il dit je lève la tête, je travaille très souvent ce genre de duel entraînement, j'ai vu que le gardien, il a tout expliqué de A à Z. Il n'a que 18 ans. C'est-à-dire qu'il a expliqué, je vois son appui, quand j'ai vu l'appui, je sais qu'il peut pas aller sur le côté. Et en fait, c'est la perfection même, quoi.
Thierry Henry avait dit, c'est quelqu'un qui joue, on parle beaucoup de sa vitesse, mais il joue avec sa tête.
Ah ben bien sûr qu'il joue avec sa tête. Et puis encore une fois, sur la seconde période, il est inexistant, il disparaît comme tout le groupe. Et puis, d'un coup, il y a un éclair de génie sur le côté gauche. Alors, il est arrêté, il est fauché, il n'y a pas faute. Mais tout seul, entre deux joueurs, il accélère, il passe entre deux, il est fauché. Mais il peut faire la différence. Et puis là, c'est quoi? C'est trois ballons touchés, deux buts.
Ouais.
Ouais, c'est ça, le troisième but, il est fantastique. Il n'a pas touché le ballon, je crois, pendant 10 minutes.
Ronaldo n'est pas surpris. On sait que Ronaldo, à tout moment, le talent, il peut marquer, coup de tête. Mais là, lui, c'est comme
il
si.
Il sort jamais du match, en fait. Il sort jamais du match, même quand il touche pas le ballon pendant 10 minutes. C'est assez
Bruno.
Moi, j'ai suivi Griezmann, parce que je suivais un peu Leicester, et je trouvais que Griezmann a fait une première période exceptionnelle, où il était vraiment la plaque tournante, il décrochait énormément, il était toujours dans les intervalles. C'est lui qui mettait son équipe dans le sens de la marche. Évidemment Dybala qui est vraiment le joueur qui est en train de monter, extraordinaire. Et puisqu'on parle pas souvent des défenseurs, effectivement Chiellini et Bonucci à la Juve, c'est vraiment des modèles, quoi. C'est on a l'impression de voir les anciens du Milan AC, Maldini, Costa Curta, Baresi. C'est la science de la défense qu'on retrouve de moins en moins en Europe. Il y a beaucoup de grands clubs qui ont des soucis défensivement, et la Juve, c'est quand même une tradition d'avoir une super défense, quoi.
Eric, puisque nos camarades n'en parlent pas, on en parle quand même, nous. C'est Cristiano Ronaldo. Il a inscrit son 100e but en compétition européenne avec une nouvelle coiphure, vous avez remarqué, bien sûr.
Magnifique.
Les réseaux sociaux ont beaucoup remarqué.
Ils ont beaucoup remarqué. Oui, moi non, j'avais pas fait attention.
Moi non plus, donc c'est...
Vous êtes des garçons, c'est pour ça.
On regarde plus bas. Non, bah, Cristiano Ronaldo.
Calme-toi.
Ah, est-ce que c'est ça?
Je voulais ambiancer un peu, mais je pensais pas. Oui, mais non, mais bon. Non, bah, il est là au rendez-vous, même quand on pensait effectivement après une saison un peu plus difficile.
C'est même lui qui fait expulser Rémi Martinez, c'est deux cartons jaunes.
Et ce qui est terrible, c'est que tu fais une saison vraiment moyenne comparée aux précédentes.
Mais il a marqué que 26 buts.
Il marque deux buts. Il va peut-être en recoller un retour. Il va coller un but contre le Barça. Il va peut-être en coller un en demi, voire en finale. Et on va dire, Ronaldo Ballon d'Or.
Il va arriver à 40 buts tranquillement.
Non, on va dire, mais Ronaldo Ballon d'Or, les gars. On va dire, ouais, elle était moins bon. Ouais, d'accord, elle était moins bon. Mais à partir du mois de mars, tous les matchs importants, tous les matchs décisifs, il a claqué. Et qu'est-ce que tu voudras dire à ça? C'est vrai.
Ça fait pas les affaires d'Antoine Griezmann, quoi. C'est ça, encore une fois.
Je pense qu'Antoine Griezmann, pour être Ballon d'Or, faut qu'il change de club.
Ouais. Ah, ça va peut-être venir. Ouais.
L'année prochaine.
Peut-être. Si vous avez des infos, vous nous le dites, hein, Naïm. Les Fenech ont enfin un sélectionneur. La Fédération d'Algérie a annoncé aujourd'hui son choix, le nom de l'homme qui va succéder à Georges Likens, arrivé dans des circonstances déjà d'urgence, hein, on s'en souvient, le Belge. Et donc, Eric, alors, si c'est bien un Espagnol, le sélectionneur sélectionné n'est pas vraiment celui qu'on attendait.
Bah ouais, parce qu'on nous avait annoncé coup sur coup dans la semaine Aitor Caranca, puis Joaquín Caparrós. Hier encore en Espagne, on pensait que c'était fait à 99%, nous dit-on là-bas, pour Caparrós avec l'Algérie. Et puis c'est un troisième nom qui est sorti du chapeau, Lucas Alcaraz. Vous le connaissez?
Oui.
Ah bah c'est bien, il y en a au moins un. Vous le connaissez?
C'est très simple, il a été limogé il y a moins d'une semaine à Grenade.
Il a été limogé il y a moins d'une semaine à Grenade.
Rien n'échappe à Naïm, Eric, vous n'êtes pas habitué.
Bien sûr.
Et vous savez qu'il avait fait une petite pige à Salonique.
Ah bah il était partout lui.
Entre décembre et janvier.
Murcie, Santander, Huelva et compagnie.
Sinon il n'est pas sorti d'Espagne encore pour le moment.
S'il était en Grèce.
Salonique, c'est ce que je disais, l'arrêt Salonique, mais il y est arrivé en décembre, il est reparti en janvier. Hein. C'était un petit intérim, il n'est pas resté très très longtemps. Il a fait
Ranieri a fait pareil avec la sélection, c'est marrant. La Grèce, on n'y reste jamais beaucoup. Hein.
Il a 50 ans, il a entraîné effectivement un bon nombre de clubs de bas-tableau de la première division espagnole. Il en a fait monter aussi de deuxième division en première division. Il est passé par Grenade trois fois puisque c'est le club où il a joué. Murcie, Huelva, Levante. C'est un peu quand même, il sort comme ça un petit peu de nulle part, mais pas tout à fait autant qu'on pourrait le penser, parce qu'il y a une filière espagnole avec le nouveau président de la Fédération algérienne de football et que visiblement les techniciens espagnols, on risque de les voir un peu plus dans le football algérien à venir. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que moi, pour autant, ça paraît être l'homme de la situation?
Moi, je suis bien embêté et j'espère que Philippe Doucet nous écoute parce qu'il y a quand même un énorme problème avec Alcaraz, c'est qu'il ne parle pas français.
Oui.
Et quand on sait qu'on nous a expliqué en long, en large, en travers que Rajevac, ça n'avait pas collé parce que c'était la raison. Parce qu'on se demande même en quelle langue ils avaient pris des contacts avec et quelle langue ils parlaient quand ils avaient étrié l'Éthiopie, hein, parce que finalement quand ils parlaient pas français, ça marchait pas. Donc comme Alcaraz ne parle pas français, je ne sais pas comment les joueurs vont faire. Est-ce qu'il y en a un là-dedans qui va avoir l'idée lumineuse de prendre un adjoint qui parle français, espagnol pour traduire? On sait pas. Est-ce que c'est l'homme de la situation? Est-ce qu'il y a vraiment un homme de la situation pour la sélection algérienne? Le contexte est tellement compliqué.
L'Algérie, c'est 57 sélectionneur en 54 ans.
Voilà. Ça veut tout dire, et dont 3 sur les 18 derniers mois. Oui. Donc voilà. Moi, j'espère
mais
de tout cœur.
Mais il y a un nouveau président à la fédération. Oui. Peut-être que c'est le début d'une nouvelle ère.
Bâtissons un espoir là-dessus, mais il y a tellement de talent à la base, hein, individuellement dans cette équipe, même en championnat, parce que les clubs algériens brillent quand même beaucoup plus sur les compétitions continentales qu'il y a quelques années. Mais quand on voit le réservoir et le gâchis de cette équipe, on en vient à désespérer qu'il y ait vraiment un homme de la situation.
Eh bien, on en parlera demain dans Radio Foot International, dans le Café des Sports, puisque Philippe Doucet est justement invité de ce Café des Sports. On va s'arrêter un petit instant, c'est sur cet appel au secours venu de Colombie, de la région montagneuse du nord de ce pays sud-américain. Le SOS, eh bien, il est lancé par un certain René Higuita. Et c'est pour ça aussi qu'on a envie de s'y arrêter, pour se replonger un peu dans quelques souvenirs. Le gardien des Cafeteros, surnommé aussi le gardien le plus fou de l'histoire. On va écouter son message posté sur les réseaux sociaux et traduit. Vous allez même voir, il est interprété, cette traduction est interprétée par David Finzel.
Hola, muy buenos días, amigos todos.
Bonjour les amis.
Muy preocupado me encuentro.
Je dois vous avouer que je suis très inquiet.
Porque hay un bandido.
Parce qu'il y a un bandit qui m'appelle pour me faire chanter.
Que nos está llamando a extorsionarnos, pidiendo plata.
Pour m'extorquer de l'argent.
Y pidiendo.
Il agit au nom de Bakrim.
A nombre de las Bakrim de Urabá.
C'est-à-dire une bande de criminels.
No creo mucho.
Je ne sais même pas s'il existe.
En este personaje, a las autoridades pertinentes.
Mais voilà, aux autorités compétentes, je demande de l'aide.
El favor,
s'il vous plaît, de l'aide.
Que me colabore.
Merci beaucoup.
Muchísimas gracias.
Voilà.
Quelle interprétation.
Il va pouvoir faire une école de théâtre aussi.
C'est un Oscar, ça.
C'est une conférence.
Il y a Cannes le mois prochain, les gars.
Et oui. Bon, malheureusement, la situation est peut-être pas très simple pour le pauvre Higuita, mais son appel a été entendu puisque la police a ouvert une enquête et essaye d'en savoir plus. Higuita, qui s'était reconverti en fermier et qui habite dans une région où il y a beaucoup de bandes criminelles qui s'en prennent évidemment aux fortunes des joueurs de foot. C'est pas vraiment une nouveauté, ça, Marc Libra, parce que on sait que malheureusement ils sont la cible de chantage, d'extorsion, et à Marseille notamment, on connaît un certain nombre de joueurs.
Oui. C'est pas la Colombie, mais
c'est pas la Colombie,
c'est notre Colombie
mais plus qu'à Guingamp quand même.
Plus qu'à Guingamp, c'est différent. La Bretagne. Non, mais c'est vrai que c'est toujours très compliqué. Les personnes assez, enfin, célèbres. En plus, s'il est retiré dans un coin où il n'y a pas grand monde, où justement on vit caché pour être un petit peu heureux, ça peut tenter aussi des gens. C'est un contexte difficile aussi.
En dépit de la paix qui a été créée, ouais, effectivement, au niveau national avec les FARC, c'est vrai qu'il y a toujours des paramilitaires, des guerriers roses, des.
Il y aura toujours des
milices.
Des groupes armés, des milices qui veulent faire un petit peu la loi et récupérer 4 sous.
Ils veulent de l'argent. Ça serait autour d'un million de pesos. Ouais. Hein.
Faut rappeler quand même qu'il était très très grand ami avec Pablo Escobar. Est-ce que ça peut être des règlements de compte C'est vrai.
Mais 25 ans après quand même.
Oui, 25 ans après. Mais bon, il y a eu problème en Argentine. En Angleterre, il y avait le joueur qui arrivait, Eric Lamela, argentin, qui était arrivé l'année de son arrivée, de son transfert, quelques semaines après son arrivée à Tottenham, et son petit frère avait été kidnappé contre une rançon. Enfin voilà, ça arrive malheureusement de plus en plus.
On se souvient de Robinho qui part vers le Real parce que sa mère avait été prise en otage au Brésil. Mais il y avait eu pire quand même en Colombie. C'était Andrés Escobar.
Et en 94.
Dans le parking,
il a marqué contre son camp.
Assassiné.
En 94.
Pour avoir manqué un pénalty.
Non,
marqué contre son camp. Tacle glissé, il marque.
Il marque contre son camp.
Mais ce que je trouve fou, moi, dans cette histoire d'Higuita, c'est qu'il en fait une vidéo comme ça sur les réseaux sociaux. Si c'est vraiment sérieux, si vraiment. Je sais pas qu'il appelle la police, qu'il fasse un truc un peu plus dans le feutré, parce que là, en publiant comme ça.
Mais c'est sûrement pour élargir au-delà de la police aussi qu'il lance cet appel sur les réseaux sociaux.
Ouais, enfin, moi, je suis la personne qui essaye de lui extorquer des sous. Je vois que le mec, il fait une vidéo pour expliquer ça. Bah, j'essaye de le faire taire définitivement. Quoi, je trouve que c'est peut-être plus dangereux qu'autre chose ce qu'il fait.
Il n'a peut-être pas le choix. En tout cas, Higuita malheureusement surgit dans l'actualité à cause de cela. Mais pouvez-vous raconter aux auditeurs, ceux qui l'ont jamais vu, le coup du scorpion, Marc, parce que c'est pour ça qu'on l'a connu, Higuita.
C'était à Wembley en plus.
68 sélections et il a marqué 8 buts. Alors ça fait partie de ces gardiens un peu iconoclastes et qui ont marqué des buts. On se souvient de Chavez, le Paraguayen. C'est quoi le coup du scorpion?
En fait, c'est un ballon qui va arriver à la hauteur de la poitrine, et lui, il a qu'une chose à faire, c'est qu'il se jette en avant et il envoie ses talons pour repousser le ballon. Mais il n'a pas fait qu'une fois, j'ai vu 3-4 vidéos où il est capable de le faire en match sans problème. Et là, c'était la première fois. En plus, il le fait bien comme s'il plonge dans la piscine, c'est-à-dire qu'il a les bras écartés et les pieds reviennent vers l'avant. ce qu'on appelait le coup du scorpion.
Mm-hmm. Et c'est le seul qui est non seulement inventé,
moi,
mais pratiqué.
J'ai tenté l'entraînement. Ah. Non, mais c'est oui, sérieux, l'entraînement. Réussi, bien sûr qu'on a essayé.
Bah, vous avez blessé qui?
Bah, une fois, je me suis pris blanc dans la nuque. Non, c'est très compliqué. Mais oui, à l'époque, quand on a vu faire ça, on était tous tentés de tenter cette. Puis, il y a l'Arconada, Higuita, il y a la. Bon, celle-là, elle restera à tout jamais, parce que je vois pas un gardien aujourd'hui
tenter la même chose.
Ouais. Tenter la même chose.
Même dans un match amical, parce que c'est un match amical à l'époque.
Concrètement, le ballon lui vient dans les bras, il peut le prendre tranquillement. Et lui, il se catapulte et il se jette. Magnifique.
C'est Cafeteros qui faisait à l'époque rêver en Coupe du Monde, Naïma. Oui, c'était 87-99, ouais. Lui, ses sélections, ouais. Mais il y avait aussi Valderrama.
Valderrama, évidemment, qu'on connaît pour sa chevelure, Cajon Montpellier, mais il y a eu des grands joueurs. Il y a eu Rincon, il y a eu Aspria. Quelques années plus tard, il y a 98, il y a eu Derezous, qui était un petit, qui était super vif, qui ressemblait un peu à Valdo, qui a joué au PSG, voilà, la Colombie. C'est toujours été une terre de football. La sélection a pas toujours eu les résultats qui suivaient, parce qu'il y avait beaucoup de talents individuels, mais en équipe, ça jouait pas toujours au top. Et là, depuis quelques années, ça revient pas mal.
Mmh, ouais. En tout cas, il a 50 ans seulement, hein, René Higuita, et il s'est reconverti après avoir été sélectionneur du côté de l'Arabie Saoudite. Et espérons, bien que la police sera efficace et qu'il ne lui arrivera rien à René Higuita. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir animé avec moi, autour de moi, ce Radio Foot International. Merci aussi à David Finzel, hein, vous l'avez entendu
la
dans
voix,
ces grandes heures.
Ah, on va s'en souvenir, oui.
Il y avait aussi Nicolas Benita à la réalisation. Et puis merci aussi à Aymeric Kouassi qui m'a beaucoup aidé justement sur le sujet de Higuita.
Et bonjour à papa, hein, Aymeric.
Oui, parce que papa, il écoute en plus, Emmanuel, hein, le papa du côté d'Abidjan. Merci beaucoup à tous et on se retrouve demain pour le Café des Sports avec Rémi.